initiative qui permet la rencontre, qui n'est pas si fréquente, entre la médecine et la psychanalyse, hein, et en particulier entre une de ces branches, la pédiatrie et la génétique et la psychanalyse. Et je tiens aussi à remercier le professeur Arnold Mini d'avoir répondu à cette demande. Il est venu accompagné de Béatrice Schiltz, qui est psychologue et psychanalyste dans son service, parce que la particularité donc Arnold Mini est, alors on dit pédogénéticien, pédiatre-généticien aussi, et chef de service à l'hôpital Necker. Et c'est un service qui travaille avec les psychanalystes. On avait déjà eu l'occasion lors d'un stage de recevoir Tatania Pellion sur la question des autistes. Il est aussi fondateur de la Fondation Imagine, hein, qui travaille en particulier, et va vous en dire quelques mots ce soir, sur le diagnostic génétique des enfants autistes, en particulier envers les institutions, avec un travail ambulatoire en institution. Et il est l'auteur d'un livre qui m'a très très intéressé, qui s'appelle « Programmer mes libres, les malentendus de la génétique ». Je vais juste vous lire un petit extrait issu de la page 135. L'opinion se tourne vers la génétique pour définir le vivant, pour trouver un sens à la vie. On ne peut pas lui demander cela. Elle nous renvoie au contraire à notre responsabilité d'être pensant, en nous donnant à l'occasion quelques clés pour comprendre le fonctionnement du vivant, n'est pas son sens ni sa finalité, à supposer qu'il en est une. Et je vous citerai juste en introduction une exergue de son livre, qui m'a beaucoup plu dans son humour, une citation de José Luis Borges: l'avenir est inévitable, mais il peut ne pas arriver. Dieu aime les intervalles. Voilà. Je ne vais pas être plus long. J'ai beaucoup de notes, beaucoup de matériel, mais on verra pour la discussion après. Donc je passe directement la parole à Arnaud.
Merci beaucoup à l'un et à l'autre. Merci de nous accueillir, Béatrice Schiltz et moi-même. Je suis extrêmement heureux et toujours très intéressé par ces rencontres, ces intersections, c'est la richesse de cette diversité qui nous caractérise. Et effectivement, je vous propose le déroulé suivant. Je vais vous parler un tout petit peu de l'Institut Imagine parce qu'il incarne ce que nous avons voulu construire dans notre vie professionnelle. Il incarne ce projet collectif. Ensuite, je vous parlerai de notre mode de fonctionnement qui est une consultation en binôme psychanalyste-généticien à l'hôpital Necker. Et ce sera Béatrice Schiltz qui vous en parlera. Et après l'exposé de Béatrice, je reprendrai la parole pour vous faire part de cette expérience qui compte beaucoup pour moi, qui sont 20 années d'intervention sur site dans les hôpitaux de jour et les IME d'enfants dits autistes. Donc ce sujet me passionne, c'est une rencontre d'une extraordinaire richesse pour moi et qui a marqué définitivement ma carrière et dont je retirais énormément de leçons. Et puis j'espère qu'on aura un échange entre nous. Donc, si vous êtes d'accord, je vais d'abord vous présenter l'Institut Imagine. Donc, au bout de la rue, vous avez l'hôpital Necker, que vous connaissez, qui a été fondé en 1802 par Mme Necker. C'était un hôpital qui était censé accueillir les enfants abandonnés. L'histoire, vous la connaissez peut-être, c'était les enfants, au temps du libertinage, étaient abandonnés au tourniquet de Saint-Sulpice. Et puis, un beau jour, le prêtre de Saint-Sulpice a dit à la femme du ministre des Finances, Madame Necker: écoutez, madame, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces enfants abandonnés? Et il se trouvait qu'il restait un petit peu d'argent après la construction de ces abandonnés par Servandoni de l'église de la Saint-Sulpice. Ils se sont dit, avec l'argent qui reste, on va créer une espèce d'orphelinat pour les enfants abandonnés au tourniquet. Il y avait effectivement 400 mètres ou 500 mètres entre Saint-Sulpice et les enfants malades. Donc ça a été le point de départ de l'hôpital des enfants malades depuis 1802, donc ça fait plus de 200 ans, qu'il y a là de la pédiatrie, surtout de la médecine d'adultes aussi. Et la particularité de ce site, qui n'a pas commencé dans notre génération, mais que nous tenons de nos prédécesseurs, c'est une tradition de recherche et de soins sur le même site. C'est un lieu où de très grandes premières de la médecine française et même internationale, les premières greffes de rats chez l'enfant, les premières thérapies géniques réussies dans notre institut, beaucoup de grandes premières parce qu'il y a la coexistence sur le même site des enfants, des chercheurs, des docteurs. Donc c'est une espèce d'alchimie qui fait que c'est un lieu non seulement où on offre le meilleur de la médecine d'aujourd'hui, mais aussi où on invente la médecine de demain. Et ça n'est pas d'hier, c'était, je le répète, c'est là que travaillait M. Jean Burger, pour ceux qui se souviennent de son nom, premier greffe rénal chez l'homme, et bien d'autres grands médecins. Alors, il se trouve qu'il n'y avait pas de lieu dédié à la recherche sur le bord de Necker. Donc les chercheurs et leurs unités de recherche, INSERM ou CNRS, étaient des SDF dans le campus, avec un inconvénient à être un SDF, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'installer convenablement quand on veut faire une recherche de boîte. Et, au fond, c'est après des générations où les patrons se tiraient les uns sur les autres, on s'est décidé dans notre génération à tirer tous ensemble dans la même direction. Et c'est là que sur l'OPIN, que vous pouvez parfaitement identifier, parce que c'est l'OPIN, qui est au carrefour du Bois Montparnasse et de la rue du Cherche Midi, sur un terrain qui était un pavillon, le pavillon de la variole. À l'époque, on devait faire des pavillons par maladie infectieuse pour éviter que les enfants se contaminent les uns les autres. Il y avait un bâtiment dans la variole. On voyait le long du Bois Montparnasse, qui était affreux, et qui a été détruit. Et on a construit sur cette emprise-là un bâtiment, la façade est de Jean Nouvel, le bâtiment est de Jean Nouvel, espèce de parois un peu mystérieuse parce qu'il y a des traces blanches sur les carreaux, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est assez impressionnant. Et derrière cette façade qui est construite sur l'emprise de l'hôpital Necker, hein, il y a à la fois une constatation énorme, où il y a 35 000 enfants par an qui viennent avec une suspicion de maladie génétique, qui viennent pour un diagnostic, pour une prise en charge, pour un traitement, pour une prévention. De maladies génétiques, donc il y a 35 000 gosses, il y a leurs parents, qui sont vus par des excellents professionnels, les meilleurs qui existent en France, je crois. Et le concept nouveau, c'était sous le même toit, au même endroit, de rassembler des chercheurs, des équipes de recherche pertinentes des pathologies que nous avons en charge dans l'Institut. Donc dans le même lieu, il y a la consultation de l'hôpital pour les maladies génétiques, 35 000, les docteurs qui s'en occupent. Et au-dessus, quatre étages, qui sont des étages consacrés à la recherche, avec des équipes qui sont recrutées au plan international, sur appel d'offres, avec un package qui est donné aux équipes pour 3 ans, et qui a permis de recruter les meilleurs talents dans les domaines qui sont prioritaires pour nous. Donc nous avons dans le même lieu la consultation de professionnels de la santé et les chercheurs qui travaillent sur ces mêmes maladies, le tout avec des plateformes state of the art pour faire une science compétitive. C'est pour ça qu'on a réussi à attirer des grands talents, parce qu'il y avait à la fois ce rassemblement de soins, de cohortes de malades et de recherche, plus des plateformes très performantes pour faire du séquençage du génome, de l'imagerie confocale, du calcul, des animaleries pour tous les modèles animaux possibles et imaginables, la drosophile, la souris, le poisson zèbre, tout est réuni pour que les gens trouvent. Donc les enfants, ils viennent avec leur famille pour avoir un diagnostic, mais encore plus qu'un diagnostic, ils veulent rencontrer les chercheurs qui vont changer leur vie. Donc ça, c'est vraiment magique. C'est un endroit unique en France, qui a été rendu possible par l'un des volets de ce qu'on a appelé, vous en souvenez, le grand emprunt, ou les investissements d'avenir, en 2009, je ne sais pas si vous vous souvenez, le président Sarkozy avait considéré que c'était en période de crise qu'il fallait investir, qu'il ne fallait pas attendre de la prospérité pour investir, qu'il fallait, c'est justement quand ça ne va pas qu'il faut investir dans l'avenir, ce qu'on a entendu d'ailleurs dans la bouche du président hier, pour les hôpitaux. Donc il a été décidé d'allouer une somme de 35 millions d'euros pour investir dans la recherche et l'innovation. Et sur ces 35 millions, il y a une partie qui est allée sur la recherche biomédicale. Et ce financement, on a réussi à identifier 5 projets d'excellence, de rupture en France. Les idées, c'était de dire c'est de l'argent, c'est de l'emprunt. Donc on va prêter aux meilleurs pour que de leur science, on fasse de la prospérité, de la croissance, de l'emploi, de la richesse. Parce qu'après tout, la santé, ce n'est pas seulement un sujet de dépenses, ça peut être aussi un sujet de recettes. En tout cas, nos collègues anglo-saxons savent très bien valoriser la recherche, nous, beaucoup moins bien. Donc le pari, c'est de valoriser les compétences et de parier sur la capacité des chercheurs de notre pays et qui viennent dans notre pays pour créer de la valeur et rembourser l'emprunt, en fait, hein, parce que l'argent a été prêté, il est remboursé. Et d'ailleurs, ça a duré 10 ans, ça s'est fini en 2019, et le Premier ministre a décidé, au vu des évaluations, de faire un avenant de 5 ans, tellement ça marche bien. Ça marche extrêmement bien. Pendant que les autres centres de recherche souffrent, nous, grâce à notre statut de fondation, vous avez rappelé qu'on est une fondation de coopération scientifique, de droit privé, qui associe des partenaires publics et privés, on a la possibilité, et même le devoir, d'assurer progressivement notre autonomie financière, et on le fait par la valorisation de la recherche. Pour vous donner juste un petit exemple, on a, sur la période, levé 4 euros privés pour 1 euro public. Donc on nous a donné 1 euro, avec 1 euro, on a fait 4 euros. Donc c'est-à-dire que c'est un bon concept. C'est un bon concept parce qu'il a été créé des startups, des grandes entreprises, il a été pris des brevets, il y a eu des licences, il y a eu des dons, il y a eu du mécénat. C'est un projet qu'on pourrait appeler bottom-up, c'est-à-dire qu'il n'est pas, décrété d'en haut d'un état-major, il s'est construit par la volonté d'une génération de professionnels, médecins, des chercheurs, de faire que les autres, faire en sorte que les autres changent. Donc, j'en ai fini pour l'Institut Imagine. Je voudrais juste vous préciser les modes de fonctionnement. Alors, il y a effectivement 35 000 enfants qui viennent pour une question relative à une probable ou possible maladie génétique. Bon. Alors, c'est intéressant pour vous que je vous donne une idée du camembert, des répartitions. Il y a un petit nombre de maladies absolument emblématiques parce qu'elles sont pionnières de la recherche thérapeutique de demain. Ce sont les maladies immunologiques et hématologiques. C'est les enfants qui n'ont pas de déficience de défense immunitaire ou qui ont des maladies du sang. Ces chercheurs-là, ces médecins-là, sont les meilleurs. Pour des raisons que vous comprenez très simplement, ils ont une ou deux générations d'avance sur nous autres. Ils avaient des bons patrons. L'hématologie, l'immunologie a une histoire prestigieuse en France. Ensuite de ça, quand on a une maladie hématologique ou immunologique, il suffit de prendre une prise de sang pour avoir le modèle de la maladie dans le tube à essai, ce qui n'est pas le cas pour les gens qui s'intéressent comme vous et moi au fonctionnement du système nerveux. Eux, ils font une prise de sang, ils ont leur modèle. Ils peuvent tout faire avec des globules blancs. Et enfin, les globules blancs, ça peut se modifier. La moelle osseuse, ça peut se prélever, se corriger. Donc, ils peuvent non seulement faire une recherche cognitive du plus haut niveau, mais encore, ils peuvent guérir des enfants d'un déficit immunitaire, je pense aux bébés bulles, ou des maladies hématologiques, je pense à la thalassémie, la phagocytose. Et les premiers succès au monde de la thérapie génique ont été faits à l'Institut Imagine. Ça, c'est un petit nombre d'enfants pour un petit nombre de maladies. Et après, vous avez des anomalies un peu plus fréquentes, mais pas très fréquente. Comme ça, par exemple, les maladies génétiques du rein, ou les surdités, ou les malvoyance, ou les maladies de la peau, ou les maladies osseuses constitutionnelles. Les enfants qui sont nains, ou sourds, ou aveugles, ou qui ont des problèmes de peau. Ils sont des enfants comme s'ils étaient brûlés vifs à la naissance, des bébés avec des bulles partout. Enfin, toutes les misères possibles et imaginables constituent la deuxième tranche par la fréquence. Mais j'en finis par la plus importante, c'est la masse énorme d'enfants qui viennent nous voir pour des retards intellectuels, des troubles des apprentissages, une épilepsie, un syndrome autistique ou des troubles psychiatriques. Ça, c'est le... Je dis toujours, c'est cinématologie et l'épidémiologie, c'est la noblesse. Nous, avec nos enfants et des problèmes neuropsychologiques, neuropsychiatriques, on est le tiers état. C'est la masse énorme des enfants qui viennent, souvent en cachette de leur psychiatre ou des établissements qu'ils ont en charge, pour poser la question de la possible organicité des troubles. Alors, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu cette détresse, en 90, quand j'ai pris le service, j'étais successeur de Jérôme Lejeune, lourd héritage, j'étais vraiment jeune et j'avais été formé à autre chose. On m'a bombardé là et je me suis trouvé vraiment, encore jeune, en situation de responsabilité, à entendre des histoires tellement lourdes, tellement éprouvantes, qu'il fallait que je me pince pour être sûr que je n'étais pas en train de rêver ou de cauchemarder. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut imaginer une double écoute. L'écoute du corps et l'écoute d'un autre. Donc c'est à cette occasion-là qu'avec un de vos prédécesseurs, quelques-uns de vos prédécesseurs, on est en 90, elle s'appelait Lisa Rezare, elle était psychanalyste à l'Institut, et elle a exercé à l'époque à Binet. Aujourd'hui c'est une très très vieille dame, mais elle a eu le courage, parce qu'il en fallait du courage, elle, la psychanalyste, de dire, bon, j'accepte, on va avoir un exercice différent de celui qui m'est familier, je suis psychanalyste, mais je vais venir à la consultation pour écouter ce qui se passe. Et évidemment, vous imaginez quoi, dans les années 90, pas aujourd'hui. C'était tout à fait atypique pour un psychanalyste de venir dans une consultation de génie. Et de fil en aiguille, c'était tellement extraordinaire. Et pour les familles, je veux dire pour les enfants, pour les parents, pour les fratries, d'avoir cette possibilité d'échange, que ce concept s'est pérennisé avec des générations successives. La plus jeune génération, elle est là, elle est venue vous voir ce soir pour parler de ce modèle de consultation. Mais aussi dans le nombre, on a eu un, puis deux, puis trois, puis quatre, psy, dans les consultations, et on a fait école. Vous savez, c'est très important pour moi de ne pas réduire l'enfant à une molécule d'ADN. C'est pas ma nature. C'est pas du tout ma nature. Donc, j'étais extrêmement attentif au ressenti de toute la subjectivité du sujet, et de ses parents, et de l'entourage, par rapport aux épreuves qu'il livrait. Dans un diagnostic, un traumatisme, un décès. Et on a appris à travailler ensemble, psychanalyste, généticien et famille, ensemble, autour de la même table. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Et ça permet, et je pense que Béa va maintenant prendre la parole, puisque elle a beaucoup de choses à vous raconter. C'est comme ça qu'on fonctionne, et c'est aussi comme ça que... Pour moi, c'est très très important. La parole peut circuler aussi. Il y a un intercesseur. Le psy fait un peu le rôle de passeur de parole, si vous voulez. Et puis souvent, quand je m'absente, je sors pour répondre au téléphone, pour faire une photocopie. Au moment, dans cette absence, il se joue des choses absolument décisives.
Il se dit des choses décisives.
Et puis il y a les autres, les frères et sœurs, à qui on va faire une place. Parce qu'ils souffrent plus encore que le malade. On a, Béa vous racontera des histoires de fratrie brisée complètement, jusqu'au moment où on met un nom sur la maladie. Et nommer le mal, c'est déjà une délivrance incroyable. La nomination, c'est déjà fonction de projet thérapeutique. Et au fond, il y a une espèce l'euphorie, qui m'a fait lire ce texte magnifique de Proust, l'euphorie au moment où on peut mettre de la pensée à la place de l'angoisse. Quand il y a l'angoisse de l'inconnu, et qu'on peut mettre de la pensée, et nommer, c'est donner à penser. Et voilà, votre enfant, il a une épilepsie, je sais exactement ce que c'est, voilà le gène, voilà le mécanisme, et voilà où en sont les essais cliniques. C'est pas rien de permettre à une histoire qui s'est arrêtée de reprendre. Ça marche, son parcours. Donc on a l'impression, c'est par la seule nomination, de remettre en marche un sujet, un parent, un couple, une famille qui sont sidérés, qui sont arrêtés. La simple nomination, ça fait redémarrer, ça fait bouger les choses. Alors là, on peut commencer à travailler et faire un projet de vie. Donc on va peut-être pas guérir tout le monde, mais déjà, nommer, c'est soigner, c'est abandonner toutes sortes de représentations sur ce qui s'est passé, fantaisiste, voire horrible, ou culpabilisante, et donner au sujet la possibilité d'écrire une autre histoire. Sans parler des bénéfices pour le sujet et pour la fratrie, d'avoir accès à l'innovation thérapeutique. C'est tout ça qui est important. Donc je vais demander maintenant à Béa de nous parler de son expérience de psychanalyse dans une conversation génétique. Et merci beaucoup Béa d'être là.
Et je crois que je ne vais pas être aussi longue que ce que tu attends, parce que je pense que l'auditoire est là surtout pour t'entendre plus que moi.
Vas-y.
J'ajoute...
Je suis venu pour t'écouter, toi.
Oui, c'est ça. Tu m'entends déjà plusieurs fois par semaine, à tes côtés. Ce que je voulais ajouter par rapport à l'expérience des psychanalystes dans la consultation génétique, vous avez déjà, je ne sais pas si tout le monde avait entendu ici Tatiana Bellion, qui effectivement a été une des...
Non, pas tout le monde, c'était dans un stage...
Ah, c'était pas ici, c'était pas...
Si, c'était ici, mais il n'y avait pas...
Toute l'assemblée n'était pas là, voilà.
Il y en avait d'autres.
Donc, en fait, avant même Lisa Rezare, je crois, il y avait, je trouve ça important de signaler qu'il y a eu, des médecins dans les années 60-70 qui ont demandé à des... D'abord, ils ne savaient pas très bien à qui. Bon, ils s'avéraient que c'était rapidement des psychanalystes, mais il y a quand même Ginette Rimbaud qui a travaillé dans les services de néphrologie pédiatrique, avec, à la demande de Pierre Royer, qui disait... très clairement, nous étions bien maladroits dans le maniement des rapports humains et nous aimions autour de nous beaucoup de malheurs. Je voulais donc une étude objective, disait-il, de la maladie endogène, celle de l'enfant et de sa mère, par opposition à la maladie exogène, celle conçue par le médecin. Donc il y a cet antécédent, et c'est vrai que quand la consultation génétique médicale est créée, que Arnold Munich prend la tête de cette toute nouvelle équipe et la construit et l'amène à ce que c'est aujourd'hui, Il y a eu quand même cette demande d'essayer de considérer autre chose que véritablement que la maladie somatique, de voir comment ça s'inscrivait dans l'histoire familiale et dans la relation de cet enfant avec le reste de sa famille. Donc c'est vrai que depuis lors, alors je vous dis quelques mots de... Il n'y a plus beaucoup de psychanalystes dans la consultation génétique quand même, on n'est pas très nombreuses. On est là de toutes les façons, donc moi je travaille 2 jours par semaine, on est comme ça sur des temps assez restreints, on n'a pas tous une formation de psychologue, parce que vous le savez, pour être à l'hôpital, il faut de toutes les façons avoir une formation de psychologue clinicien, tout le monde n'est pas psychanalyste, en fait il y a à peine 2 temps pleins, quoi. Donc c'est vraiment très réduit, et de toutes les façons c'est à la demande des médecins, c'est-à-dire qu'on ne s'impose pas dans la consultation, on participe aux consultations, je dirais tout à l'heure un peu la spécificité de cette consultation qui est en binôme, ce qui est très différent d'autres services de génétique à Paris, où les psys reçoivent des patients, mais ils les reçoivent après la visite avec le médecin, ce qui n'a strictement, pour moi, strictement rien à voir, et pas du tout le même intérêt et clinique et psychique, enfin, et du côté somatique et du côté psychique. Donc on est peu, on participe à la demande des médecins qui nous accueillent, et qui surtout nous font une place. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait si vous êtes là, c'est bien, si vous n'êtes pas là, c'est pareil. C'est quand même l'idée que si on est là, on prend sa place, on n'est pas là, on n'est pas en train de faire la psychanalyse, évidemment pas. Moi, je travaille avec ma formation analytique, c'est-à-dire j'écoute avec ce que je fais dans mon cabinet, je suis à l'espace analytique, je suis pas au forum, mais je suis à l'espace analytique, et j'ai été formée par cette institution aussi, dehors du reste, Et j'écoute avec ma formation, mais je ne suis pas évidemment pas analyste. Il n'est pas question de balancer des interprétations, des raccourcis. Évidemment, c'est pas du tout l'endroit. Et c'est voilà. Du côté des familles, on n'a jamais. Les familles viennent pas voir des analyses dans la consultation. Ils viennent voir le médecin. Évidemment, on se présente. Et c'est. Non, je crois qu'il y a un cas depuis que j'y suis, depuis plus de 5 ans que j'y suis, que je consulte avec Arnold. Ma présence n'était pas souhaitée. Donc on a posé la question, je ne sais pas si tu te souviens, une famille avec une jeune fille, une seule fois, avec une jeune fille, une grande jeune fille autiste qui était passée par une institution. Ils avaient une très mauvaise expérience de la psychanalyse, et donc j'ai un peu hésité à rester. Puis ils m'ont dit non, mais de toute façon, vous, que vous soyez là ou pas, finalement, ça revient au même. Voilà, je suis restée. Je suis restée, c'était pas mal finalement, je crois quand même que je serai là. Voilà, donc l'idée c'est que à côté d'un généticien, bon, il va parler plus de ton travail après, dont on espère et souvent les patients fantasment une lecture comme ça oraculaire du génome et de ce qui serait inscrit. Voilà, donc on convoque, on invite un psychanalyste qui dans ce format de consultation qui est vraiment très particulier, qui est la consultation en binôme. Donc nous, on est là, avec notre écoute, enfin avec cette particularité de l'écoute analytique, plutôt située du côté du non-savoir. Alors évidemment, aujourd'hui, après plus de 5 ans, je touche un peu ma bille en génétique, mais je comprends cette langue qui est une langue super spécialisée, super technique, super scientifique, mais je suis capable de demander à professeur Munich de préciser des trucs qui ne sont pas très clairs pour moi, donc en général pas très clairs pour les familles. Donc on nous invite à entendre des histoires, peut-être on est un peu plus habile que les autres à entendre des histoires de famille, parce qu'on est convaincu, je crois que les scientifiques de cet institut aussi, qu'il y a à côté du dispositionnel, enfin je reprends Freud, hein, du dispositionnel et d'un vécu antérieur de l'espèce, aussi de l'accidentel. Et donc de l'accidentel, c'est-à-dire le vécu récent de l'individu qui agit aussi. Et donc cette dimension conjointe et solidaire, à la fois d'une dimension, cette double dimension phylogénétique et ontogénétique du sujet vivant. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas de destin qui serait, je crois que M. Drapier vous l'avait dit en introduction, l'a rappelé dans le livre d'Arnold, c'est qu'il n'y a pas de destin qui serait écrit, qui nous déterminerait ou nous surdéterminerait à l'avance. Mais l'idée, c'est. Voilà, que chacun est pris dans une destinée avec ce qu'il a aussi, évidemment, dans le patrimoine génétique, mais que l'idée, c'est que le patrimoine génétique n'écrase pas tout, et n'écrase pas notamment toute la subjectivité. Et donc, l'idée d'un analyste présent dans la consultation, ça va être un peu de décoller, parce que c'est vrai qu'il faut se rendre compte que les patients qui viennent, les enfants qui viennent, c'est vrai que des fois, on se demande comment c'est possible, c'est-à-dire comment c'est possible d'être un enfant de 8 ans, qui ne parle pas, qui ne marche pas, qui ne s'alimente pas seul, dont on se demande quelle est sa perception du monde. Et voilà. Et donc, parfois, on est écrasé par la dimension somatique de qui se présente avec cet enfant et cette famille. Et le médecin, bien sûr, la tâche du médecin, et ce n'est pas une tâche facile, parce que, en plus, le professeur Munich draine les maladies rares, mais les maladies rares en plus qui n'ont jamais été diagnostiquées. Donc ça veut dire qu'arrivent dans la consultation des enfants de Paris, mais aussi de toute la France, qui parfois, au décours d'une sorte d'errance diagnostique, après avoir consulté plusieurs équipes médicales, sont à bout de course et il n'y a pas de diagnostic. Donc ils arrivent avec l'idée que est-ce qu'on peut faire quelque chose, est-ce que peut-être ici vous allez trouver, il y a plus d'équipes, il y a plus de chercheurs, voilà. Donc cette idée d'à la fois aboutir peut-être un jour à un diagnostic, on parle même pas de soigner, on parle déjà de nommer la maladie. Donc si vous voulez, quand se présente tout ça, et qu'en plus il s'agit de génétique, donc je donnerai en deux exemples, ça veut dire génétique, ça veut dire filiation, ça veut dire transmission, transmission au-dessus, transmission après. Est-ce que c'est une maladie qui a été transmise? Est-ce que c'est une maladie nouvelle avec cet enfant? Pourquoi cette maladie arrive à ce moment-là? Enfin, pourquoi elle arrive? On prend ça comme ça arrive, c'est-à-dire cet enfant se présente et il est malade. Et est-ce que c'est nouveau pour lui? Est-ce que ça a été transmis? Et on ne savait pas que les parents étaient porteurs, etc. Donc c'est toutes ces questions, et c'est vrai que le fait d'être à deux pour entendre tout ça, ben, on n'est pas trop, quoi, parce que des fois, c'est vrai qu'on a envie de se percer en se disant, mais par quel bout on prend la question. Donc, il va s'agir d'entendre des patients parler du drame, évidemment, qui les traverse, de la place de cet enfant qui arrive et qui est malade dans l'histoire familiale, être à l'écoute de ce que Maud Manoni appelait ce vaste discours, celui d'aujourd'hui, mais aussi celui dans lequel l'enfant a vécu auparavant, d'où parle le sujet, à qui parle-t-il et pour qui parle-t-il. Et donc, je pense que si notre présence est extrêmement importante pour les familles, même si je ne me présente pas comme psychanalyste, je suis une des psys du service, c'est un peu plus sobre et ça ne fait pas trop de remous, et puis ça n'adresse pas tout de suite des murs de justification, d'incompréhension. Profil un peu bas, je trouve que ça convient assez bien. Je dis aussi que je crois que notre présence, elle est importante pour les médecins, parce que, pour toutes les raisons qu'on vient de dire, parce qu'il y a quand même, ils font quand même face à une impuissance thérapeutique quand déjà on a réussi à nommer la maladie. Donc ces enfants qui sont lourdement, je vous l'ai dit, lourdement handicapés au niveau moteur, au niveau cognitif, au niveau sensoriel, et qui souffrent de maladies la plupart du temps rares et inconnues de la médecine. Donc moi je dis, on est un peu comme un corps antique. À la fois Arnold le disait, à la fois on est écho et messager. C'est-à-dire qu'on fait passer l'information, et c'est vrai que, je ne sais pas si c'est une façon de gérer ton angoisse, mais en tout cas il sort souvent de la consultation pour chercher des examens, pour consulter un collègue, voilà. Et c'est vrai que c'est un peu comme j'ai travaillé un peu à l'hôpital psychiatrique, et c'est vrai que c'est à certains moments, quand le médecin sort, il y a comme ça une sorte de parole qui se libère, et c'est le moment où les patients me disent des choses, me disent « mais j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit, est-ce que vous pouvez me réexpliquer ?» Alors évidemment, parfois je peux dire quelques mots, mais s'il y a des précisions plus importantes, on les reprend avec le médecin quand il revient, parce qu'il revient.
C'est déjà pas mal.
Et puis, voilà, donc on est un peu cette espèce de cœur antique. Je disais écho et messager. Évidemment, il y a une sorte d'éthique de l'instant comme ça, où il se passe quelque chose au moment où... Je ne l'ai pas dit, mais les consultations, c'est des consultations qui sont attendues par les familles depuis 6-8 mois. Donc quand ils arrivent, ceux qui seront intéressés viendront visiter, imagine, parce qu'il y a une sorte de passion intérieure... qui est assez magnifique, comme ça, tous ces étages où sont installées des équipes de recherche. Et les enfants attendent là, peuvent jouer, peuvent s'installer avec leur famille, peuvent même manger un snack, etc. Et c'est vrai que quand ils viennent, ils arrivent en général de loin, ils attendent la consultation depuis longtemps, parfois ils attendent un peu aussi qu'on les prenne. Voilà, donc il y a comme ça une... Je ne vais pas dire que ce n'est pas une mise en scène, mais il y a un moment comme ça un peu particulier, un peu... pas dire tragique, mais c'est un moment quand même où il va se jouer quelque chose dans cette consultation. Donc on reçoit ensemble, c'est le corps soignant qui reçoit ensemble, donc le généticien et l'analyste, les présents, les enfants qui sont là, les enfants aussi à venir, parce qu'il y a aussi une dimension de conseil génétique, et aussi on reçoit, moi je dis aussi qu'on reçoit les absents, parce que sont très présents dans la consultation des enfants qui ont disparu. Et je trouve que leur présence silencieuse est parfois tout aussi éloquente, et j'ai l'habitude de dire que tout le monde est là, en fait, les présents, les absents et les enfants à venir. Voilà, donc nous on est là évidemment avec cette c'est plus facile pour nous, parce qu'on n'est pas en première ligne de qu'est-ce qu'il a et est-ce qu'il va se soigner, est-ce que vous allez trouver et qu'est-ce qui va se passer après. On est là, on écoute cette demande officielle, en tout cas d'enquête génétique, on la reçoit, on l'entend, mais on entend aussi la question du désir, la question du fantasme, la question de la place de chacun, la question de la filiation et de la transmission d'une maladie grave. La question étant, comment le sujet qui se présente là dans la consultation, comment il vit avec ce réel-là, ce réel quand même très compliqué, celui de la maladie et de la mort, qui parfois peut hanter franchement plusieurs générations. Je ne sais pas si vous avez connaissance, juste une petite petite vignette. Je ne sais pas si vous connaissez les tableaux de l'histoire de Salvador Dali, qui est arrivé après un frère aîné qui était mort quelques années avant sa naissance. Et ce n'était pas l'habitude en Espagne, mais ses parents lui ont donné le même prénom. Il s'appelait aussi Salvador. Et il y a plusieurs tableaux de Salvador Dali qui reprennent cette question un peu comme ça, comme une litanie. Et la question de fond étant, est-ce que je suis l'enfant vivant ou est-ce que je suis l'enfant mort? Et il dit que jusqu'à la fin de sa vie, cette question de quel Salvador finalement il était, l'a poursuivi. Alors, je ne vais pas être très longue, parce que je pense quand même qu'il y a une parole aussi ici qui est importante à entendre. C'est vrai que... juste deux petites rapides vignettes cliniques pour vous expliquer un peu comment ça peut se dérouler une consultation avec une famille. Là, c'est une mère qui s'était présentée toute seule à la consultation avec un enfant couché dans ses bras qui a 8-9 ans. Et elle vient de Clermont-Ferrand. Et cet enfant que j'ai appelé Hugo, donc c'est un fils unique, le couple est séparé, le petit garçon est infirme moteur cérébral, et il est adressé en consultation, elle était déjà passée par le service de neurochirurgie de l'Équerre, qui a envisagé une intervention, mais le service de neurochirurgie voulait savoir de quel était le possible diagnostic de cet enfant. Donc le tableau clinique, vous l'avez compris, est très sévère. C'est un petit garçon qui est né à 26 semaines, très grand préma, dans un contexte d'hématome rétro-placentaire. Il a passé plusieurs mois de début de sa vie en réa, détresse respiratoire, infection, septicémie, bon bref, un parcours chaotique et gravissime. Et il vit en institution, et donc la mère le sort de l'institution et l'amène à Necker à la consultation. Et elle dit d'emblée... Aucun diagnostic n'a été posé jusque-là. Les équipes sont à courte d'inspiration. C'est ce qu'elle dit tout de suite. Et donc, elle sollicite une reprise des recherches éthiologiques. Et elle s'adresse au médecin. Je veux savoir, pas pour un traitement miracle, mais pour avoir une idée de l'évolution. Donc ça, c'est sa demande manifeste. Et on va bien voir, c'est juste pour vous donner un peu le rythme de ces consultations, on voit bien que c'est au fur et à mesure qu'elle va répondre aux questions du généticien sur les circonstances, enfin, sur l'histoire de cet enfant, on essaye effectivement de... La question centrale étant, est-ce que c'est la prématurité qui cause l'état de cet enfant, ou est-ce que la prématurité est la conséquence d'une pathologie in utero de cet enfant, donc une pathologie peut-être génétique. Très vite, en fait... La consultation va prendre un autre tour. Et la mère, oui, on est un peu... C'est pour ça que c'est pas mal d'être à deux, quand même. En fait, la consultation prend tout de suite un autre tour et elle va réinterroger directement le projet d'enfant. Et elle va dire, je n'ai jamais voulu d'enfant. À 36 ans, je me suis laissée convaincre par le père, au début de notre vie commune. Mais d'ailleurs, je dois vous le dire, la grossesse s'est très mal passée. D'ailleurs, docteur, est-ce que... Donc, il faut s'imaginer cette scène où on est trois... plus l'enfant couché dans les bras, qui ne bouge pas, qui ne parle pas, qui ne s'alimente pas seul. Et elle dit, mais en désignant l'enfant, elle dit, mais est-ce que ce ne serait pas une fausse couche tardive? Et puis elle s'en prend au médecin accoucheur, et puis elle dit, on m'avait dit, un petit mouvement comme ça, un tout petit peu paranoïaque, on m'avait dit à la naissance qu'il n'aurait pas de troubles neurologiques, et qu'au pire, il bégayerait. Mais enfin, vous voyez bien, entre le bégaiement et ça, il y a un monde. Et puis d'ailleurs, quand il a été réintubé à 2 mois, on ne m'a pas demandé mon avis. Bon. Donc, je n'ai pas besoin, vous êtes tous psychanalystes, donc vous avez compris. Donc, devant le tableau dystonique, en plus de cet enfant, des examens sont recommandés, l'exome est envisagé par le médecin, qui finalement est assez rapidement affirmé par la mère, qui dit... L'exome, c'est donc l'analyse du génome de l'enfant avec ses deux parents. Donc il faut avoir les trois ADN pour pouvoir faire le travail, pour que les plateformes technologiques puissent travailler. Et la mère dit, le père de Hugo est totalement absent, je vois pas du tout comment on va pouvoir s'organiser. Bon, donc, vous voyez, qu'est-ce qu'elle veut faire, en fait? Donc voilà, donc on est là, on est un peu pris entre une demande qui est adressée au médecin de reprise des recherches, son ambivalence quand même qu'on entend, et on se dit, mais qu'est-ce qu'elle veut? qu'est-ce qu'elle vient nous dire dans cette première consultation? Donc, à la fois, il y a une... Je pense que... je vais conclure là-dessus. C'est, dans cette consultation, je crois qu'il y a une double promesse, à la fois de la part du corps soignant, à la fois une promesse, et ce sera fait, une promesse de recherche, parce que finalement, le père va revenir dans la boucle plusieurs mois plus tard, mais bon, on va pouvoir commencer des recherches. Donc, je crois qu'il y a une double promesse, à la fois de reprendre les recherches étiologiques, et aussi d'entendre sa parole, c'est-à-dire que cette femme, elle vient aussi dire beaucoup d'autres choses que juste demander une reprise des recherches étudiantes. Et c'est à l'occasion d'eux qu'elle va redérouler toute l'histoire de cet enfant. Et les questions, je crois qu'elle amène, c'est est-ce qu'il est du côté des vivants ou des morts? Par quel désir il est porté? Alors bien sûr, on entend ici le désir de savoir et le désir de relancer le diagnostic et les recherches, pour parvenir peut-être à une domination de la maladie, mais aussi on entend une pulsion mortifère avec un désir de mort, de la faute, la culpabilité, enfin bon, tout ce qu'on peut entendre ici. Et c'est une femme, c'est vrai qu'elle avait une désorganisation narcissique massive au moment où elle était dans cette consultation. C'est vrai que c'était assez compliqué en plus de la suivre, mais bon, on a entendu aussi sa détresse. Donc c'est vrai que la question qui arrive, c'est, vous voyez, dans la même consultation, c'est à la fois la recherche et le diagnostic, mais à la fois des questions qui portent sur cet enfant, et finalement, c'est quoi un enfant, c'est quoi une mère, quoi. Enfin, on pourrait presque dire ça en conclusion de cette petite illustration. Bon, et puis... une autre vignette clinique qui concerne une famille qui reprend pas mal de situations qu'on rencontre à l'Institut. Parce que là, on voit comment toute une famille autour de la maladie d'un petit garçon s'est totalement affolée. Donc c'est un petit garçon qui vient avec ses parents. Les parents sont jeunes, il a une trentaine d'années. Un petit garçon qu'on va l'appeler Ethan. Et véritablement, depuis ses premiers mois, il a 4 ans. Et depuis tout petit, il a une atteinte neuromusculaire importante, d'origine probablement centrale, d'étiologie jusque-là inconnue, qui associe insuffisance respiratoire, retard du développement cognitif et psychomoteur. Il a trouvé de qui je parle. Donc c'est le deuxième enfant de ce couple. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises. Il fait l'objet d'un suivi, d'une prise en charge multidisciplinaire super lourde. Et dans cette famille, il n'y a pas d'antécédent connu de maladie génétique. Donc c'est la déflagration. Au décours des premières consultations avec cet enfant et ses parents, incompréhension et angoisse dominent les échanges. Ça fuse, particulièrement de la part du père, pourquoi il est malade, c'est quoi l'origine de sa maladie, quelles seront ses compétences. Il était très, très inquiet sur cette question, avec les compétences cognitives et motrices. Est-ce que l'aîné peut être malade de la même maladie? Est-ce qu'il va y avoir un risque pour une autre grossesse, et pour nos frères et sœurs, et pour les enfants qu'ils auront, enfin, voilà. Donc la question diagnostique va mobiliser... que le travail comme on fait d'habitude, la question diagnostique va mobiliser les équipes de recherche, et d'ailleurs la mutation génétique a été récemment identifiée, mais on voit peu à peu dans la famille une véritable panique qui va s'ébriger comme ça dans toute la famille, c'est-à-dire qu'on va recevoir des demandes de consultation, la consultation médicale de génétique va recevoir des appels des frères, des sœurs, c'est une grande famille Ashkenaz, et donc il y a une véritable panique qui va toucher tous les oncles, les tantes, et on va recevoir dans la consultation alors les frères et sœurs, les futurs conjoints qui ne sont plus des conjoints, qui ne seront pas après la consultation des futurs conjoints. Enfin bon, on se retrouve dans des situations assez compliquées. Donc on les reçoit en consultation, donc seuls ou avec leur futur, qui ne seront plus bientôt leur futur, dans ce no man's land, finalement, du sans-diagnostic. Donc l'idée, c'est que ce qu'ils réclament à la consultation, c'est que la science les aide à prédire le risque, pour que ça ne recommence pas avec eux. Je reprends texto les verbatims de la consultation. Donc il va y avoir besoin de nombreuses consultations et d'une grande patience du médecin pour essayer d'expliquer, de dire où on en était, quelles étaient les recherches qui avaient été lancées, quelles étaient les pistes qui étaient privilégiées. Et on voit bien l'angoisse qui domine et l'affolement qui les prend tous les uns après les autres pour essayer de border ce réel ignorable que l'inconscient, vous savez, a tant mal à se représenter et qui échappe sans cesse à la symbolisation. Donc, peu à peu, en fait, ce qu'ils vont demander, bon, après ils vont trouver des réponses ailleurs, mais ils vont demander, il va y avoir, leur angoisse va comme ça se diffuser, ils vont en fait essayer de demander une série de tests génétiques. Donc les maladies récessives, donc ce qui ne sont pas aujourd'hui autorisées en France, les maladies récessives les plus fréquentes, les uns après les autres demandé des diagnostics prémaritaux, des diagnostics préconceptionnels, avec l'idée comme ça de circonscrire cette menace. Parce que cet enfant était tellement... C'était un enfant qui... C'était très compliqué parce que c'était le premier enfant malade dans la famille, qui n'avait pas eu du tout cette idée de maladie génétique, donc ça paraît invraisemblable et inacceptable. Et c'est vrai que la question qu'on pouvait penser par rapport à l'histoire aussi de cette famille, c'est de quel temps on parle et à quoi pensait-il échapper. Donc on voit bien que... Bon, après, il y a eu d'autres... au décours des consultations, comme on a été amené à recevoir les grands-parents des deux côtés, paternel et maternel, tout d'un coup, il y a eu autre chose qui a surgi, c'est-à-dire une mise en cause même du couple de la part des grands-parents, paternels, qui ont commencé à dire que peut-être que c'était une femme qui était un peu particulière. Bon, donc après, on entend autre chose qui ne concerne finalement plus tellement la génétique. Et bon, il s'avère que moi, j'ai pu recevoir après la mère de l'enfant, parce qu'elle était quand même extrêmement, extrêmement mal. Pour finalement, je vous donne la conclusion, mais finalement, la conclusion, bon, parce que cette femme était considérée par la belle famille comme étrangère et mauvaise, et peut-être pour préserver la famille comme elle-même exempte de toute tare ou de toute faute, ce que finalement la réalité génétique a finalement dénié, puisqu'on a trouvé une maladie récessive transmise par les deux grands-pères paternels et maternels. Donc finalement, les deux familles étaient concernées, il n'y avait pas de faute ou de tare sur une des deux familles. Donc on voit bien comment la génétique a fait voler en éclats les représentations même dans cette histoire. Bon, je vais m'arrêter. Juste ce que je voulais dire, Arnold en a dit un mot. On a aussi un équerre, de par ce format de consultation en binôme, parfois on ne sait pas qui arrive dans la consultation, parfois c'est un enfant et une mère, parfois c'est un couple et des enfants, parfois c'est toute une famille, parfois il y a des grands-parents. Donc, ce que je voulais juste dire en conclusion, c'est qu'on a une attention particulière aux frères et sœurs des enfants malades, parce qu'on sait bien, on sait combien, il y a eu pas mal de travaux de psychanalystes sur cette question, mais on sait quand, enfin pas tant que ça, d'ailleurs c'est pas d'un intérêt très récent, mais on sait que les enfants, ils sont invités dans la consultation, ils viennent souvent à la consultation, soit parce qu'ils sont trop jeunes pour rester seuls à la maison, soit parce qu'ils veulent savoir vraiment de quoi, enfin, et ou pour savoir aussi de quoi il s'agit. Mais ils sont aussi les témoins bien portants de la famille. Donc ils sont parfois sollicités en termes d'ADN, je peux dire, mais ils sont aussi sollicités parce qu'ils sont importants dans la constellation familiale. Donc on a une attention particulière, aussi parce qu'on sait que s'occuper d'un enfant très malade pour un couple, c'est très compliqué. Et on a eu comme ça ensemble cette réflexion que parfois, je vous la livre, je ne sais pas si vous avez pu le croiser dans votre clinique, mais on se rend compte que on a constaté, c'est pas du tout une vérité générale, mais personnellement, j'ai constaté, j'en ai fait part à Arnold, que c'était beaucoup de couples qui se présentent avec des enfants malades sont des couples séparés, sont des couples qui ont volé en éclat, alors que quand il y a un enfant qui est mort, le couple a tendance à mieux résister, peut-être à partager la peine, je ne sais pas. C'est vrai qu'un enfant malade, et les enfants sont très malades, ça demande obligatoirement qu'un des deux parents s'arrête de travailler parce que les prises en charge sont presque quotidiennes. Psychomote, orthophonie, ergothérapeute, organiser les relations avec la MDPH, c'est quand même tout un bazar. Et c'est vrai que les frères et sœurs sont très concernés parce qu'ils font parfois face à des parents qui sont extrêmement quand même déprimés par la situation, parfois aussi séparés, et face à des mères, des parents, dont le risque de désinvestissement vis-à-vis des autres enfants est parfois extrêmement élevé. Voilà. Voilà, sans compter toutes les questions qui peuvent se poser pour les frères et sœurs qui, eux, sont à un moment donné en âge d'avoir eux-mêmes des enfants et qui se demandent comment s'inscrire dans une filiation sans avoir des enfants malades. Est-ce qu'on peut être soi-même parent sans... Il y avait une femme qui nous avait dit « Est-ce que je pourrais moi-même donner naissance à des garçons sains ?» Cette femme ayant perdu elle-même deux frères d'une myopathie du Duchenne. Voilà, donc... Tout ça pour vous dire que vous voyez bien que si on recevait les patients après le médecin, on n'entendrait pas du tout les mêmes choses, ils ne se joueraient pas du tout les mêmes choses. Donc là, on est un peu au cœur du dispositif et c'est très, je crois que notre place est importante pour décoller un peu du tout biologique ou du tout génétique qui peut menacer ces consultations et qui peut aussi geler un peu la dynamique psychique de toute une famille. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Je voudrais vous dire quelques mots avant qu'on entame la discussion. Je suis absolument ravi que Béatrice ait pu partager avec vous son expérience. Vous comprenez bien en l'écoutant que la présence côte à côte du psychanalyste et du généticien est essentielle dans le dispositif. Il se dit des choses, il s'entend des choses ensemble, qui fait qu'elle est légitimée par sa participation à la consultation. Elle fait partie de l'équipe. Je ne vais pas référer à un psy après un patient ou une fratrie. Elle est là. Elle est légitimée par sa présence à mes côtés. Moi, à ses côtés. Je ne sais pas qui est à côté de l'autre, d'ailleurs. Donc, en réalité, le dispositif permet de légitimer et de poursuivre l'action de la psy ensuite. Il y a une autre chose qu'elle a dite, à laquelle je suis extrêmement sensible, elle a dit « Plus de technicité appelle plus d'humanité. Plus il y aura de la technicité, plus il faut répondre à la technicité par un sursaut d'humanité. Toutes les carabistouilles qu'on vous raconte sur l'intelligence artificielle qui va remplacer la consultation, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc s'ils s'imaginent qu'on va s'exonérer du déficit, de la défaillance des médecins par de l'IA ou par des ordinateurs, se trompent complètement. Je trouve que Béatrice en apporte la démonstration absolue. Donc il faut faire un sursaut d'humanité lorsqu'il y a une avancée majeure de technicité. Alors, je voulais dire encore deux, trois choses. La durée des consultations, vous l'avez compris, c'est une heure, quand c'est pas une heure et demie. C'est extrêmement long. Donc, on n'est pas rentable. Pour un directeur d'hôpital, on coûte cher, mais on n'est pas rentable. Et donc, c'est extrêmement difficile. Et voilà pourquoi, effectivement, on a du mal à trouver des financements pour que les psys passe, consente un temps aussi long pour une balade par jour. Un point de technique, puis je vous dis un mot sur les hôpitaux de jour et on discute ensuite. L'écoute, c'est elle et c'est moi. C'est-à-dire que je commence par me faire raconter l'histoire. C'est une histoire individuelle, une histoire familiale, une histoire collective. Les choses se disent là qui n'ont jamais été dites auparavant. Et après l'écoute, et là, après avoir tracé l'arbre généalogique, je vais examiner l'enfant. Tout nu, en présence de ses parents, et on va arriver à évoquer un diagnostic et proposer des tests. Donc le côté un petit peu magique ou sacré, c'est le test génétique. C'est la capacité, sur une simple prise de sang, de tester l'un quelconque des 30 000 gènes de votre génome. L'essentiel, c'est de poser la bonne question. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Si je sais poser la bonne question, je vais poser une question précise. Si je ne sais pas très bien articuler mon questionnement, alors je vais devoir séquencer tous les gènes. Elle a parlé d'exo tout à l'heure. Donc si je suis un très bon clinicien, j'évoque une hypothèse ou un petit nombre d'hypothèses que je vais pouvoir tester, ou bien je n'ai pas d'idée où la maladie me semble inconnue et je dois tout tester. Dans la première situation, je suis en situation d'être un médecin. Dans la deuxième, je suis en situation d'être un chercheur qui va découvrir l'inconnu. On trouve toutes les semaines des nouvelles maladies à l'Institut Imagine. Il y a 30 000 gènes, on connaît 8 000 maladies. Toutes les semaines que Dieu fait, on trouve des nouvelles maladies. Et on a en fait un nombre immense de maladies rares. Ce qui nous touche le plus sur le plan ontologique et philosophique, c'est que chacun de nos enfants est unique, vos enfants sont uniques, vous êtes unique pour vos parents, mais on est unique aussi, jusqu'à y compris dans les épreuves qui nous frappent. Parce qu'on n'a jamais deux fois le même malade. Il n'y a pas deux enfants qui ont la même mutation dans le même gène. Donc la singularité du vivant, vous la retrouvez jusqu'à y compris dans les épreuves de l'existence. Donc tout ça, ça nécessite des tests, et les tests génétiques, diagnostiques, ou préventifs, ou prénatales, ou préimplantatoires, ça se fait sur des machines, mais on ne peut pas résumer l'activité, vous l'avez compris ce soir, du généticien, comme on le lit dans le journal, comme la bécilité de Laurent Alexandre ou de Luc Ferry, ça ne peut pas se résumer à des problèmes d'ordinateur ou de séquenceur, vous comprenez bien. Parce que si on rêve d'une médecine sans médecin, avec des ordinateurs, de l'intelligence artificielle et des séquenceurs, et des firmes pharmaceutiques à la clé pour fabriquer des médicaments, je veux dire, ce n'est pas, pas de la médecine humaine, c'est parfaitement inhumain. Donc, je voulais insister sur l'allure de la durée, sur les incertitudes aussi du test génétique, ça n'est pas la panacée universelle, elle l'a dit, on tombe sur de nombreux variants de signification inconnue, donc il faut garder de surinterpréter les données de la génétique, on annonce pour une très grande part encore le génome, on n'est pas capable de tout comprendre, hein. C'est des passages qui sont clairs, puis d'autres passages où c'est l'hébreu, on ne comprend rien. Enfin, certains comprennent, mais pas tous. Donc, en réalité, c'est très difficile de dire, maintenant, je ne vais pas aller plus loin. Et donc, un de nos combats, c'est de tester pour éviter de faire des catastrophes et des paroles meurtrières, parce qu'il y en a, hein, des enfants qui sont donnés pour perdus par des interprétations abusives de tests génétiques. C'est ça l'effet pervers. C'est qu'à mesure qu'on dissémine, on va divulguer des informations totalement infondées, qui détruisent, qui ont des coups de fusil sur les parents. Donc on s'en tient, pour éviter ces situations, à tester dans les plateformes possibles les gènes connus et publiés pour donner telle maladie. Mon enfant est autiste, j'ai 480 gènes à tester. Mon enfant est épileptique, j'ai 151 gènes à tester. Voilà. Donc en fonction de la situation clinique, on pose l'indication d'un test, et si on n'a vraiment aucune idée, on fait un test de l'ensemble des gènes. Alors ce qui me touche énormément, et dans le discours de Béatrice, et dans ce que je retiens moi-même de cette situation, c'est le contraste entre la puissance diagnostique, parce qu'on diagnostique dans 50, 60, 70% des cas, c'était 3% il y a 10 ans. Hein. On est passé de 3 à 4% à 60, 70% de diagnostic. Ce qui contraste, le contraste entre la puissance diagnostique et l'impuissance thérapeutique. Et donc, quand on a la capacité de prédire sans soigner, ça ne s'appelle pas une prédiction, ça s'appelle une malédiction. Donc la situation extrêmement pénible pour nous, c'est de répondre à la question de la nomination sans pour autant dicter un pronostic défavorable. Donc tout mon temps, l'heure qui se passe, à expliquer que le diagnostic est une chose, le pronostic est un autre, et qu'avec le diagnostic, on va construire un projet de vie, un projet éducatif. Donc, remobiliser les énergies pour que, même si l'enfant est en situation de handicap, les parents arrivent à retrouver l'énergie pour continuer de... Tout ça, ça procède d'une justice rendue à ces familles. On a l'impression de leur rendre justice en les écoutant, en apportant à leur chevet le meilleur de la science d'aujourd'hui, même si on n'est pas capable de donner les thérapeutiques. J'ai fini. Je voudrais vous dire un mot, parce que j'ai entendu qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui sont dans les autres jours à les IME. Alors, vous pensez bien qu'il faut attendre 6 ou 8 mois pour avoir une consultation génétique. Il n'y a plus de généticien, il n'y a pas assez. C'est très long. C'est très long. Et l'attente pour un enfant autiste dans une consultation, c'est insupportable. Lieu inhospitalier, même si c'est l'hôpital, il est inhospitalier. L'attente est insupportable. Le cadre est étranger. Ça se passe mal. Quoi. Les hurlements, c'est pénible pour les autres, c'est pénible pour les familles. Donc, un beau jour, je me suis dit, écoutez, on va faire autrement, c'est pas vous qui venez, c'est moi qui viens chez vous. Et j'ai pu nouer ces relations, je voudrais le raconter, parce que j'ai pu faire ce travail sur site depuis 98, depuis 20 ans, parce que j'ai gagné la confiance des pédopsychiatres et des psychanalystes des institutions. Et j'ai gagné leur confiance parce qu'ils ont entendu parler des consultations en binôme. Et ils se sont dit entre eux, lui, c'est pas un généticien comme les autres, il est fréquentable. Parce que les autres ne l'étaient pas. Et c'est vrai, d'ailleurs.
C'est vrai.
Bon. Et alors, moi, j'étais un généticien fréquentable. Et donc, ils se sont dit, mais ce mec-là, si on le faisait venir plutôt que de l'envoyer le malade. Et j'ai commencé à aller sur le site. Donc, on va, avec une équipe mobile de l'hôpital Necker, financée par l'ARS de France, dans une trentaine d'établissements spécialisés pour jeunes enfants autistes. Je vous raconte en deux mots, c'est extraordinaire comme expérience. Les familles nous accueillent à bras ouverts. Les équipes sont légitimées par le fait qu'ils nous invitent à venir. Ils ne sont pas du tout hors circuit. Ils sont dans le jeu. Ils assistent à la construction. Ils sont légitimés eux aussi par ce travail parce qu'ils ont obtenu la visite d'un généticien et l'implémentation de tous ces tests. Parce qu'on fait les tests sur place sans avoir de présence. Et l'arrivée en quelques mots des courses, je peux vous dire, puisque j'en suis maintenant quelque part entre 500 et 1000 enfants, on l'a publié cet été. On arrive à un diagnostic d'anomalie génétique à présentation autistique dans 35% des cas. Voilà. 35%, on était à 3% quand j'ai commencé en 98. On est passé, et on peut passer, de 3% à 35% quand on s'en donne la peine aujourd'hui. Alors, comme l'a dit magnifiquement Béatrice, en citant Freud, dispositionnel, accidentel. On n'est pas en train de s'arracher et revendiquer les origines. Elle l'a dit très bien. Il y a du dispositionnel et il y a l'accidentel. Et quand le travail du généticien qui aurait dû être fait, qui pourrait être fait, l'a été, alors le travail du psy se reconstruit sur des bases tout à fait différentes, sur des bases d'organicité extrêmement intéressantes qui mobilisent les énergies. Donc je les vois, une fois que j'ai procédé à cette diagnostic, quand je le peux, reprendre leur travail de manière incroyable, spectaculaire. D'abord, les enfants entendent, les familles comprennent, une délivrance quand on donne un diagnostic. Et quand on n'en donne pas aussi, généralement aussi. Mais vous voyez aussi mes collègues psy qui vont faire leur travail différemment. Donc au fond, on n'est pas exclusifs les uns des autres. On doit travailler ensemble. Tout ça, c'est possible qu'ensemble. Et c'est dommage que ça n'ait pas été fait avant. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on n'avait rien à offrir. Aujourd'hui, on a des choses à offrir. Donc c'est le moment de revisiter le mode de fonctionnement et de collaboration, avec des consultations comme ça par exemple ce soir, mais aussi sur les modes d'intervention. Il y a des très nombreux enfants qui sont totalement exclus des soins, mesdames et messieurs. Je vois dans des services, des dossiers que je demande à consulter, ils sont vides. Rien. Jamais vu un médecin. On voit le généraliste quand il a de la fièvre. Mais jamais un examen clinique. Des enfants qui n'ont jamais été examinés. Docteur, vous allez examiner mon enfant. Mais personne n'a jamais déshabillé. Donc je suis parfois le premier médecin à examiner des enfants qui sont totalement exclus du dispositif sanitaire.
À 15 ans.
À 15 ans. Donc c'est incroyable. Il y a là quelque chose d'emblématique qui intéresse beaucoup les racines de France, qui intéresse tous les collègues à l'étranger. C'est un succès fou à l'étranger. J'ai écrit aux deux ministres, à s'en foutre complètement, même pas une réponse. Deux fois aux deux ministres. Pour la première fois, Claire Compagnon m'a dit, j'ai entendu dire que vous faites depuis 20 ans un truc intéressant, est-ce que je pourrais venir? Elle viendra la semaine prochaine. Mais, si vous voulez, dans le silence assourdissant de Mme Buzyn et de Mme Cluzel, je vois une méfiance par rapport à ce que je représente. Parce que c'est pas bien porté dans le milieu de parler de génétique dans l'autisme. C'est pas bien. On risque de se faire des ennemis, l'inné et l'acquis, souvenez-vous le débat entre Onfray et Sarko en 2007. Tout ça, ça fait que la génétique n'a pas bonne réputation. Mais chez certains professionnels. Mais la génétique, il y a un moment où on en a besoin et où les parents l'attendent. Si trop tôt, c'est pas bien, trop tard, c'est pas bien non plus. Quand des parents s'interdisent d'avoir des enfants au risque de la récidive et qu'on peut leur dire, voilà le diagnostic, c'est un accident et vous pouvez voir votre deuxième enfant tranquille, mais ils sont fous de joie. Et au fond, cette intervention me paraît un mode, non seulement utile, mais je dirais indispensable pour le travail des équipes dans les IME ou autres choses. Voilà ce que je voulais vous dire. Et c'est une leçon extraordinaire que de voir, vous avez vu, pour certains d'entre vous, ce film magnifique qui s'appelle Hors Normes, où il y a des enfants que je soigne, que je connais. Mais c'est parfaitement exact, c'est exactement ça, vous le savez. Quoi, l'histoire du signal d'alarme, la petite victoire. Mais tout le monde fait la fête parce qu'il a traversé la Seine sans tirer le signal d'alarme. C'est ça nos victoires. C'est des petites victoires, mais c'est des victoires. Donc, il a fini par sonner. Donc, si vous voulez, moi je trouve que c'est un peu comme le travail que je fais avec Béatrice à l'hôpital Necker. C'est extraordinaire de travailler ensemble. Voilà, au fond, c'est merveilleux de travailler ensemble. D'ailleurs, on vous invite, Béatrice et moi, si vous voulez venir nous voir. Pas tous ensemble. Voilà. Merci de votre attention.